Bienvenue. Vous écoutez FinTech, le podcast de France FinTech qui donne la parole à celles et ceux qui réinventent la banque et l'assurance. Litchi, Ulu, Luco, Bankin, Lydia, Conto, vous avez sans doute déjà entendu leur nom au moins une fois, vu leur pub dans le métro et peut-être même utilisé leur service. Saviez-vous qu'on les appelle FinTech, AssureTech et RegTech, contraction de finance, assurance, régulation et technologie ? C'est pour apprendre à les connaître et mieux comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé FinTech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute ! Bonjour ! C'est déjà le 5e épisode de FinTech, merci à toutes et tous pour votre écoute. Pour nous donner un petit coup de pouce, vous pouvez partager le podcast à deux personnes de votre entourage, ça nous aiderait beaucoup. J'en viens à notre 5e épisode, je reçois Alexandre Pro, le CEO et cofondateur de Conto. Conto, c'est quoi ? C'est la néobanque des entreprises et des indépendants. Leur mission depuis 2016, c'est de simplifier la banque pour les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur business. J'adore, et je ne suis pas la seule, Conto a déjà plus de 120 000 clients dans 4 pays différents. Je vous laisse écouter notre discussion avec Alexandre tout de suite. Bonjour Alex.
Bonjour Naël.
Merci d'être là pour le podcast de France FinTech. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Bien sûr. Bonjour à tous. Alexandre Pro, cofondateur et CEO de Conto. Depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi.
Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours avant Conto ? Comment t'es arrivé en fait là ?
Oui, alors un parcours, si je remonte à la nuit des temps, entre guillemets, assez classique, école de commerce. Ensuite, j'ai fait du conseil en stratégie pendant quelques années. Ensuite, un MBA à Singapour. Et à ce moment-là, j'ai commencé à penser, on va dire, à l'entrepreneuriat et à ce que je pourrais faire d'un peu plus opérationnel que du conseil. Et j'ai mis un premier pied dans l'entrepreneuriat en 2011 en travaillant avec Rocket Internet pour le lancement d'une startup qui s'appelait Wimdu à l'époque, qui était une sorte d'Airbnb donc européen. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ça m'a plu, mais je me suis dit que j'avais pas envie de mettre juste un pied dans l'entrepreneuriat, mais les deux, et de sauter à pieds joints, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Et donc en 2013, on a fondé avec Steve Anavi, mon associé, mon cofondateur, à la fois donc sur notre première entreprise en 2013 et évidemment aussi sur Conto en 2016. On a fondé une première entreprise dans le domaine des objets connectés, un outil d'aide au sevrage tabagique qui s'appelait Smokio. C'est une aventure qui a duré 2 ans et demi, 3 ans. L'entreprise a été rachetée en 2015-16. Et pendant cette première aventure entrepreneuriale, ou 100% entrepreneuriale, on a vu, en direct, les galères, les frustrations que les petites entreprises peuvent vivre par rapport à leur banque, à leur quotidien bancaire et financier. Donc on avait ça dans un coin de notre tête. Et quand cette première entreprise a été rachetée, on a eu envie de redémarrer une aventure tous les deux ensemble. Ouais, donc avec Steve, mon associé, et en faisant la liste des pains, comme on dit, ou des frustrations qu'on avait eues en tant qu'entrepreneur, on revenait assez souvent sur ce sujet de la finance, la banque, la comptabilité, etc. Et donc c'est comme ça qu'est né Conto en 2016. Et puis après des dizaines d'entretiens avec des entrepreneurs, des CFO autour de nous, ça nous a convaincu qu'effectivement il y avait un vrai besoin, une vraie frustration des petites entreprises. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé Conto.
Du coup, Conto, c'est la néobanque des entreprises et des indépendants. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur là où vous en êtes aujourd'hui ?
Alors, effectivement, la néobanque des entreprises et indépendants, on a aujourd'hui un peu plus de 120 000 clients, donc des TPE, PME, dans toute l'Europe qui utilisent des services. Quand je dis toute l'Europe, c'est France, Allemagne, Italie, Espagne, puisqu'on est présent dans ces quatre pays. On a lancé la France au début et ensuite les 3 autres pays, donc un peu plus tard. En termes d'équipe, on a 300 personnes dans l'équipe aujourd'hui, la plupart basées à Paris, donc au siège. Et on a aussi des recrutements qui sont à venir dans les 3 pays donc, dans lesquels on a lancé, Allemagne, Italie, Espagne. Aujourd'hui, les équipes de ces différents pays sont basées aussi à Paris, mais on va les étendre aussi plus localement. On a fait plusieurs levées de fonds pour un total de 136 millions d'euros, dont la dernière était début 2020, donc ça date un petit peu, mais qui nous laisse déjà pas mal de temps de voir venir, puisque c'était un peu plus de 100 millions d'euros à l'époque. Et voilà, en quelques chiffres, peut-être d'une manière un peu plus qualitative, on est hyper fiers et contents évidemment de l'amour, ou en tout cas de la qualité du service, et donc l'amour que nous portent nos clients, puisque notre mission, c'est « Creating the finance solution all businesses love ». Donc il y a « love » dans notre mission, et c'est évidemment une grande satisfaction au quotidien de voir nos clients qui disent soit en direct à nous, soit j'allais dire ouvertement sur les réseaux sociaux, etc., qu'ils adorent Conto, qu'on leur rend énormément service, qu'on leur simplifie la vie, parce que c'est vraiment notre mission, leur simplifier la vie. Typiquement, un NPS d'à peu près 70, ce qui est très élevé quand on compare, par exemple, par rapport aux banques traditionnelles, mais même par rapport à d'autres services dans d'autres industries, c'est un Net Promoter Score donc très élevé, et c'est aussi pour ça qu'on se lève tous les matins.
Conto, maintenant, ça fait un peu figure de référence dans l'écosystème fintech français. Tu l'as dit, 120 000 clients en 3 ans et demi, une des plus grosses levées de fonds des fintechs françaises. Comment on en arrive là en aussi peu de temps ?
Je pense que c'est un mix de plein de choses. Probablement une bonne idée au sens un vrai marché, une vraie frustration, une vraie pain, comme on dit souvent, qu'on avait bien identifié. Et ensuite, un bon timing, parce qu'il ne suffit pas d'avoir bien identifié la pain, il faut avoir... voilà, entre guillemets, la bonne idée au bon moment, donc de bien se lancer. Ensuite, l'exécution, qui est un mix de plein de choses, hein, d'avoir la bonne équipe, les bonnes fonctionnalités, les bons partenariats, etc., etc. Et puis, franchement, un peu de chance aussi, parce que tout ça, voilà, même si on a voulu le faire comme ça, bah, il y a aussi des moments où il faut avoir un peu de chance sur un recrutement, sur une levée de fonds, sur un partenariat, sur le coup de pouce d'un journaliste qui va faire un article très positif, etc., enfin ce genre de choses. Voilà, un peu un mix de tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a peut-être par rapport à d'autres entreprises, moins, voire beaucoup moins pivoté, c'est souvent un mot ou un nom qu'on entendait souvent. Nous, on a, entre guillemets, jamais pivoté. On voulait faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On avait déjà ça en tête il y a 4 ans, quand on voit nos premières slides de l'époque de Seed Round en 2016. C'était quasiment exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, on a peut-être mis un peu plus de temps que prévu dans nos slides. On a peut-être été un peu ambitieux sur le timing. Mais en gros, on a la direction, même les tarifs, etc., les fonctionnalités. Et donc, je pense qu'on avait bien identifié le problème ou la douleur des entreprises parce qu'on l'avait vécu nous-mêmes, et qu'ensuite on a un mix de bonne équipe qui s'est bien constituée, de bon timing, un peu de chance aussi sur quelques éléments, les levées de fonds qui nous ont aidés, parce que tout ça c'est évidemment tout ça est lié. On a pas mal dépensé en acquisition client, en croissance de l'équipe, en développement des fonctionnalités. On a construit toute notre core banking system, qui est vraiment la plateforme technique sur laquelle on se repose maintenant. Donc voilà, c'est compliqué d'identifier un élément, mais il y a un peu de tout ça, je pense.
Super. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le business model de Conto ?
Oui, alors le business model de Conto, il est assez simple. Il est un type SaaS, un software as a service. Donc on a des clients qui payent tous quelque chose tous les mois. On a plusieurs forfaits qui vont de 9 à 99 euros aujourd'hui. Et donc, tous nos clients payent entre 9 et 99 euros, pour faire simple, avec plus ou moins, il y a quelques options aussi. Mais donc ça, c'est le premier pilier de notre revenu. Et il y a aussi d'autres éléments sur des petites commissions qui sont reversées par Mastercard, qui est notre partenaire sur les cartes. Donc à chaque fois qu'un de nos clients utilise sa carte, il y a une petite commission qui est reversée par Mastercard. Donc ça, c'est un élément qui est aussi... nous rapporte donc des revenus. C'est des petites commissions, mais sur des très gros volumes, ça peut devenir significatif, et c'est le cas pour nous. Puis après, on a aussi des partenariats et d'autres services qu'on propose à nos clients, qui d'ailleurs souvent sont demandés par nos clients eux-mêmes. Typiquement, on a pas mal d'entreprises qui se créent avec nous, qui se lancent avec nous et qui nous demandaient « c'est super Conto, mais moi j'ai aussi besoin d'autres services pour me lancer. C'est quoi le Conto de l'assurance, par exemple, pour la responsabilité civile professionnelle ?» Parce que quand on se lance, on a besoin de cette assurance. Et donc, on a fait un partenariat avec AXA. Et donc, quand un de nos clients nous demande « est-ce que vous avez de l'assurance responsabilité civile professionnelle ?» On lui propose cette assurance qu'on a pré-négocié, pré-packagé avec AXA. Et quand un de nos clients prend cette assurance, qui est évidemment complètement optionnelle, hein, on a une petite commission d'AXA, d'apporteur d'affaires, pour le dire vite. Voilà, donc ça, c'est aussi un complément, on va dire, de nos revenus.
Pour continuer sur les partenariats, je crois que vous avez annoncé récemment Conto Connect.
Exactement.
Et du coup, cette interconnexion avec plein d'outils, autres outils financiers de gestion d'entreprise plus globalement, est-ce que c'est ça le futur des services financiers selon toi ?
Alors effectivement, on a annoncé il y a quelques mois le lancement de ce qu'on a appelé Conto Connect, qui comme son nom l'indique bien, permet de connecter Conto avec d'autres services. Nous, notre peut-être si je prends un peu de recul, notre ambition c'est de simplifier la vie des entrepreneurs, des entreprises au maximum, en faisant une partie des choses nous-mêmes et l'autre partie, parce qu'on ne va pas tout faire nous, l'autre partie de bien l'intégrer, la connecter à Conto. D'où effectivement cette section ou cette partie de notre application qu'on appelle Conto Connect et qui permet d'éviter de faire de la double saisie, de perdre du temps, de faire des erreurs, etc. Et donc, via notamment des API, de connecter Conto avec pas mal d'autres outils. Donc, que ce soit sur des outils de comptabilité, des outils de gestion de bulletins de salaire. Par exemple, on a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, maintenant une intégration avec Payfit. On a aussi des services d'affacturage. Par exemple, on a annoncé aussi quelque chose avec Edebex sur la partie affacturage. Donc, à la fois des services financiers au sens strict, mais aussi des services connexes. Donc de comptabilité, de facturation, voilà, il y a pas mal de choses qu'on a dans notre pipe, comme on dit. Et effectivement, l'idée, c'est soit de faire des choses nous-mêmes, soit de bien les intégrer, parce que par définition, le compte courant d'une entreprise, il est très très central dans la vie de l'entreprise. Et pour lui simplifier la vie, elle a envie, l'entreprise, de le connecter à un maximum d'outils qu'elle utilise au quotidien.
En passant soit par Conto ou soit par les plateformes tierces, du coup ? Soit c'est Conto qui est intégré dans d'autres plateformes, ou alors c'est Conto qui rassemble dans la même interface. Est-ce que pour vous, il y a un enjeu sur il faut que les clients utilisent plutôt l'interface de Conto ou pas ?
Nous, ce qu'on veut, c'est que les clients ils utilisent Conto, ils aiment Conto. Après, qu'ils connectent d'un côté ou de l'autre, ça a moins d'importance pour nous que probablement pour d'autres services qui sont spécialisés sur cette connexion. Nous, comme je disais il y a quelques instants, on a un business model qui fait que si nos clients ils utilisent le service, qu'ils payent leur abonnement, etc., qu'ils utilisent des moyens de paiement, qu'ils sont contents avec le service, en fait, on est content. Mais c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est que pour beaucoup de clients, en fait, ils se loguent très naturellement sur leur compte courant parce que c'est quelque chose qu'ils ont envie de pouvoir regarder, on va dire, assez fréquemment, de pouvoir faire des virements, etc., enfin, pas mal de choses. Et donc, assez naturellement, ils vont plutôt utiliser ça comme cockpit ou comme tableau de bord. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne en général.
Dans beaucoup, enfin les intégrations là qui sont faites aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont été permises grâce à la nouvelle réglementation avec la DSP2 et l'open banking notamment. La régulation dans le secteur de la fintech, c'est souvent perçu comme une contrainte, mais en fait j'ai l'impression que c'est aussi une opportunité pour les services financiers pour se développer.
Je pense que la réglementation, elle est évidemment nécessaire parce que tout ce qu'on fait nous, c'est gérer l'argent d'entreprise en l'occurrence. Mais évidemment, ce serait pareil, voire peut-être encore plus sensible si on parlait de l'argent de particuliers. Mais on gère des millions, pour pas dire des milliards d'euros de transactions. Et donc, c'est normal qu'il y ait des règles, qu'on puisse pas avoir n'importe qui ouvre un compte, que quand il y a des virements qui sont faits vers des bénéficiaires ou vers des pays qui sont à risque, bah, qu'on vérifie encore plus, etc. Enfin, ce genre de choses, c'est tout à fait normal. En plus, avec les événements récents de terrorisme, etc. Enfin, c'est complètement, je pense que tout le monde le comprend bien. Et donc, c'est très bien qu'il y ait de la réglementation, c'est très bien qu'il y ait la même réglementation pour tous les établissements, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'une start-up puisse faire, entre guillemets, n'importe quoi, alors qu'une grande banque ne fasse pas n'importe quoi, si je le dis de manière un peu simpliste. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des réglementations qui sont plus au goût du jour et qui, en 2021, n'ont pas lieu d'être. Donc, que ce soit des choses qui nécessitent d'être en physique et qui n'ont pas été prévues pour être à distance, par exemple, ou d'autres sujets qui ne sont pas adaptés au mobile, par exemple, alors qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Il y a beaucoup plus de smartphones que d'ordinateurs. Et donc, c'est anachronique, on va dire, de ne pas avoir une réglementation qui est prévue pour le smartphone. Donc, il y a pas mal d'exemples comme ça où on voit que, dans l'idée, la réglementation, elle est tout à fait bien et c'est pas forcément une opportunité, mais en tout cas, c'est un cadre qui est nécessaire dans le domaine de la finance et de la fintech. En revanche, quelquefois, c'est vrai que la réglementation, elle est pas au goût du jour, quoi. Et c'est ça le problème, et que souvent, l'innovation va plus vite que la réglementation, et que donc, il peut y avoir des moments où on se retrouve dans une situation où des acteurs innovants ont fait des choses entre guillemets bien et positives qui vont apporter un meilleur service, quelquefois aussi apporter plus de sécurité, mais qui ne rentrent pas complètement dans les clous d'une réglementation qui est un peu vieillotte, quoi. Et donc c'est ça qui peut créer des petits écarts ou des petits problèmes qui sont amenés à se corriger, mais souvent moins vite que ce qu'on aimerait, quoi.
Et quand on veut se développer au niveau européen comme Conto, est-ce que sur ça, il y a des mauvaises surprises sur la réglementation, notamment pour s'étendre en Europe ?
Je pense qu'il y a une très bonne surprise, c'est que les agréments, ils sont valides dans toute l'Union européenne. Depuis le Brexit, il n'y a plus le Royaume-Uni, évidemment, mais en dehors de Royaume-Uni, donc pour toute l'Union européenne, on a un agrément, dans notre cas, un agrément établissement de paiement en français. On l'a passeporté, comme on dit, dans toute l'Union européenne, et donc on peut l'utiliser dans les 27 pays de l'Union européenne. C'est ce qu'on a fait en Allemagne, Italie, en Espagne. Et donc, en fait, c'est exactement comme un permis de conduire. On a un permis de conduire français, on peut aller louer une voiture ou conduire une voiture en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. D'ailleurs, quand on compare par rapport aux États-Unis, c'est paradoxalement plus compliqué, parce qu'en fait, ces autorisations ou ces agréments, ils sont par État. Et donc, si on a une fintech aux États-Unis, il faut avoir un agrément en Californie, un au Colorado, un dans l'État de New York, etc. Donc, c'est pas exactement comme si c'était des pays nouveaux à chaque fois, mais c'est quand même plus compliqué qu'en Europe. C'est peut-être ça qui explique aussi, en partie, en tout cas, le succès de la fintech européenne. Donc ça, c'est un point très, très important. Malheureusement, évidemment, comme c'est l'Europe, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un peu d'écart. Et donc, effectivement, nous, dans notre cas, notre agrément, il existe et il est utilisable et utilisé sur nos quatre marchés. Mais chaque pays a quand même un peu ses spécificités. Évidemment, sur la langue, nous, on est dans la zone euro, donc il n'y a pas les questions de monnaie. Tout est géré par la Banque Centrale Européenne. Mais sur la réglementation de la lutte anti-blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme, etc. Globalement, c'est la même chose, mais souvent, le régulateur national a du mal à s'empêcher à mettre un petit twist local, on va dire, à la réglementation. Et donc, ça veut dire d'aller ajuster un peu ce qu'on fait. Mais globalement, quand même, ça marche. Nous, on est dans 4 pays et c'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir été dans ces 4 pays que si on avait dû refaire tout ce qu'on avait fait pour se lancer en France.
Tu parlais de votre agrément. Donc aujourd'hui, vous êtes établissement de paiement. Vous avez commencé en tant qu'agent d'établissement de paiement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'obtention d'un agrément, un peu comment ça se passe, etc.
Effectivement, quand on s'est lancé, et je pense que ça revient de tes questions du début sur qu'est-ce qui a fait notre succès. Je pense que c'était vraiment le timing, le time to market. Et c'est pour ça qu'on s'est effectivement adossé à l'époque à un établissement de paiement qui s'appelle Trésor. Ça nous a permis assez simplement de nous focaliser plus sur ce qui était vraiment en front par rapport aux clients, les fonctionnalités, l'acquisition client, le support, et de déléguer en tout cas pour un temps toute la partie plutôt réglementaire et back-office et back-end à donc notre partenaire de l'époque. dont on a maintenant pris notre indépendance ou notre autonomie par rapport à Trésor. Mais effectivement, c'est ce qui nous a permis, entre autres, de nous lancer, très vite sur le marché. Et donc, ensuite, quand on a vu qu'il y avait une traction client forte, que notre produit, notre service répondait à une vraie demande, etc., on s'est dit, bon, on voit que ce qu'on fait a du sens, c'est validé, entre guillemets, par la traction client. À moyen terme, ça aura du sens d'avoir notre propre agrément, nos propres systèmes et pas mal de choses. Et du coup, on s'est effectivement lancé sur ce sujet qui prend du temps, qui prend des mois, voire plutôt des trimestres, et qui nécessite des ressources en interne, des ressources business, des ressources techniques, des ressources juridiques. Je dis en interne, mais c'est en interne et en externe. On avait aussi des conseils. Et donc, je pense que toutes les stratégies sont, enfin, en tout cas, toutes les stratégies sont regardables. Nous, dans notre cas, on est content de ce qu'on a choisi de faire, c'est-à-dire de dire on va se focaliser sur une partie du service, mais on va céder ou s'appuyer d'un partenaire, s'appuyer sur un partenaire, pardon, pour se lancer plus vite, être plus rapidement confronté au test de est-ce qu'il y a un marché ou pas pour ce produit, est-ce que notre positionnement est le bon, est-ce qu'en termes de pricing ça tient la route, est-ce que etc, etc. Et c'est ça qui nous a permis de nous lancer vite et ensuite de rajouter des briques, on va dire, à ce qu'on faisait nous-mêmes, quoi.
Dans les ressources que tu citais, il y a aussi les ressources financières, parce que la fintech, c'est connu pour être une industrie où il y a besoin de beaucoup de moyens financiers pour se développer. Vous avez signé l'année dernière une très grosse levée de fonds et vous avez notamment des investisseurs étrangers au capital. Est-ce que c'est une nécessité pour se développer ensuite d'aller chercher de l'argent en dehors de France ? Et aussi, est-ce que ces investisseurs-là, ils vous apportent aussi autre chose que juste des ressources financières ?
Ouais, je pense qu'il y a deux éléments sur la levée de fonds, et notamment la dernière levée de fonds qu'on a faite. Je pense qu'on a effectivement levé un montant important, 104 millions d'euros, parce qu'on en a besoin, c'est pas juste pour faire joli, entre guillemets, et donc c'est vrai que la fintech, ça consomme pour plein de raisons des ressources, mais globalement, scaler, c'est un mot très à la mode, et dans 4 pays, etc., ça demande pas mal de ressources, parce qu'en fait, je caricature, mais si on dit qu'on est dans 4 pays, c'est un peu comme si on avait levé 25 millions pour chacun des pays. C'est évidemment un raccourci, mais et du coup, quand on le voit comme ça, c'est pas non plus énorme. Et donc, je pense qu'il y a clairement un besoin de fonds quand on veut faire un leader européen, comme c'est notre ambition. Ensuite, sur la partie France ou pas France, en fait, il y a deux choses. C'est plutôt une super nouvelle que des investisseurs non français, et en l'occurrence d'ailleurs même non européens, s'intéressent à une boîte européenne basée et quand même encore principalement ancrée en France, et notamment à l'époque, on a pas mal progressé en dehors de France depuis, mais à l'époque on était encore beaucoup ancré en France, quand je regardais le nombre de clients, chiffre d'affaires, etc. Et donc je pense que c'est une très grande bonne nouvelle pour l'écosystème tech et fintech français, de se dire en fait on peut être une fintech basée à Paris et lever des fonds en gros avec n'importe quel investisseur du monde. On n'est pas obligé ou on n'est plus obligé d'être basé à Londres ou aux États-Unis ou je sais pas où, et on n'est pas non plus obligé d'avoir la majorité de ses clients ou de son chiffre d'affaires aux États-Unis ou dans le monde entier. En fait, on peut être une boîte à vocation ou à ambition européenne, voire plus, mais qui est encore relativement pas mal ancrée en France et quand même intéressée, attirée les meilleurs fonds et les meilleurs investisseurs du monde. Donc je pense que c'est une super nouvelle. Et donc nous, c'est exactement comme ça qu'on l'a vécu, c'est-à-dire qu'on a voulu lever des fonds avec un montant relativement élevé en tête. On a rencontré pas mal d'investisseurs potentiels. Et parmi ceux-là, il y a ceux qu'on a choisis qui nous offraient à la fois des conditions, on va dire, financières parmi les plus intéressantes. C'était pas forcément d'ailleurs les mieux disants, mais c'était parmi les plus intéressantes, et aussi un mix d'expérience et de connaissances et de réseaux qui nous semblait vraiment intéressant, parce qu'en fait le point central, c'est qu'eux, ils ont déjà accompagné des entreprises qui sont passées de je vais dire 100 à 1000 employés, 100 millions à 1 milliard de valorisation, enfin, quels que soient les KPI qu'on regarde exactement ou les indicateurs qu'on regarde exactement, mais ils ont déjà vécu tout ce scale, le nombre de bureaux qui passe de 1 à 10, etc. etc. Et donc, avoir autour de soi ou autour de la table des gens qui disent « Ah, moi, ça, j'avais vu ça dans cette boîte-là, ça fonctionne bien. » Ou ça, « Ah non, ça, c'était une grosse erreur, etc. » »« Ah, d'ailleurs, tu veux en savoir plus, je peux te mettre en contact avec telle ou telle personne qui a vécu une situation similaire il y a un an ou deux ou trois. » Bah, c'est psychologiquement et souvent dans les faits assez utile de pouvoir avoir ce genre de conversation, d'échange qui permettent de prendre des décisions avec un peu plus d'assurance et d'éviter peut-être un peu aussi certaines bêtises de temps en temps. Quoi.
Pour reprendre le mot que tu citais, le scale, et si toi, tu avais un conseil à donner sur comment on scale son équipe, puisqu'en 2016, donc, vous étiez deux avec Steve. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous êtes presque 300. Donc, comment on fait pour passer de 2 à 300 en 3 ans et demi ?
Effectivement, dans le scaling, l'équipe, c'est un gros point, c'est un gros sujet. Je pense que la culture, les valeurs, c'est évidemment très, très important parce que c'est le socle de bien savoir où on va. Et donc, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on n'ait pas pivoté, qu'on n'ait pas... Alors, je ne dis pas que pivoter, c'est mal en soi, évidemment, mais je pense que ça simplifie beaucoup de choses d'avoir une vision, une mission, un business model clair, etc. parce qu'on risque moins de perdre les gens, entre guillemets. Perdre au sens propre, au sens figuré. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup aidé. Le fait qu'on se dise, bah, on lance en France, ensuite on lance dans d'autres pays. Et puis, enfin voilà, tout ça est encore une fois très lié à notre plan et ce qu'on avait pu décrire dans notre deck. Alors, on ne peut pas revenir tout le temps à cette levée de fonds d'amorçage de 2016. Mais c'est vrai que du coup, ça rassure et ça facilite les choses de se dire, bon, on voit où on va, on y va, peut-être avec un chemin qui n'est pas exactement au millimètre près ce qu'on avait dit, mais globalement, on est quand même très en ligne avec ce qui était prévu. Et donc ça aide beaucoup pour se positionner et pour attirer, garder et faire grandir aussi des talents dans l'équipe. Après, je pense qu'on a réussi aussi à attirer des talents et à les onboarder, mais sans en rajouter entre guillemets trop d'un coup, parce que certaines boîtes peuvent quelquefois être confrontées à l'excès de, enfin voilà, on va tripler la taille de l'équipe. Alors je parle pas quand on est tout au début, parce que ça va encore, mais passé l'année dernière, on est passé de 180 à 300. Pendant, en plus, c'est l'année 2020 où c'était quand même en plein dans le Covid, etc. Je pense que c'est bien qu'on n'ait pas fait plus que ça. On aurait peut-être pu, mais parce que en fait, le temps d'onboarder les gens, que chacun prenne, trouve sa place, comprenne, se puisse faire coacher, etc. Et que du coup, aussi en termes de culture et d'imprégnation des valeurs, etc., ça se fasse relativement naturellement. Donc c'est aussi peut-être... il faut savoir recruter vite, mais pas non plus trop vite, ou beaucoup, mais pas non plus trop, parce que sinon on peut un peu se noyer dans l'excès de croissance de l'équipe, quoi.
Très clair. Et pour revenir plus sur toi, là, ça fait maintenant donc 7 ans que tu es entrepreneur, mm-hmm. si je compte Smokio.
Ouais.
C'est quoi les leçons que tu retiens de ces 7 ans d'entrepreneuriat?
Les leçons, alors c'est pas vraiment des leçons, mais c'est génial, mais franchement, c'est très dur, c'est très fatigant. Et je pense qu'il faut du coup avoir une, alors c'est aussi un autre mot très à la mode, mais la résilience, ou la, enfin voilà, faut savoir que ça va être long, ça va être difficile, mais c'est évidemment génial. Il y a plein de moments géniaux plusieurs fois par jour. Il y a aussi plein de moments pas du tout géniaux plusieurs fois par jour, mais ce que je veux dire, c'est qu'on, voilà, faut être conscient que ça va être beaucoup de ups et beaucoup de downs, où évidemment on espère plus de ups que de downs, mais voilà, et je pense qu'il faut être préparé à ça. Et du coup, il faut aussi, même si c'est dur, hein, parce que je dis pas que je le fais forcément tout le temps, mais il faut aussi essayer de se faire une espèce de petite carapace pour pas non plus être trop touché dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, parce qu'en fait il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, Et encore, je pense que Conto, comme j'expliquais, on a plutôt, depuis le début, une croissance et une trajectoire qui est très positive. Il n'y a pas eu d'énormes remises en question depuis le début, etc. Mais malgré ça, il y a quand même plein de petites mauvaises nouvelles, en tout cas, sur le parcours. Et donc, faut apprendre à vivre avec, bien les encaisser. Je pense que c'est bien aussi d'avoir... je sais pas, des activités ou des choses en dehors de son projet entrepreneurial qui évidemment prend 80-90% du temps éveillé, on va dire, et qui prend beaucoup la tête, même quelquefois en dormant, etc. Mais je pense que faire un peu de sport, avoir famille, amis, enfin des trucs un peu classiques, mais c'est important, peut-être encore plus dans une période Covid, confinement, etc., comme on le vit actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que les plus belles boîtes, je pense, elles se font quasiment tout le temps sur 5, 7, 8, 10 ans. Et donc, c'est long, hein, surtout quand on a 25, 30, 35 ans. Enfin, ça dépend en quel âge, mais c'est des années évidemment importantes pour plein de raisons. Donc, il faut avoir conscience que c'est long. Et puis, le deuxième élément, je pense, c'est que souvent aussi, je suis bien placé pour le dire avec Smokio, souvent aussi, la première boîte n'est pas le succès aussi grand, on va dire, qu'on l'espérait. Et ça peut se faire à la deuxième, à la troisième, etc. Moi, j'espère que ce sera à la deuxième. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir ça en tête. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer assez tôt. Alors, peut-être pas le plus tôt possible, mais assez tôt. Parce que justement, ça permet d'apprendre potentiellement... se dire c'était une bonne expérience mais je veux me relancer sur autre chose, même si ça s'est bien terminé, ce qui est le cas pour Smokio, mais c'était pas, on va dire, aussi grandiose que ce qu'on aurait pu espérer, et du coup de pouvoir faire autre chose ensuite, quoi.
Merci Alexandre. Et qu'est-ce qui, dernière question, mais qu'est-ce qui continue à te motiver à te lever tous les matins pour Conto?
Franchement, plein de choses, mais je trouve que l'aventure humaine est géniale. Donc on le disait, 300 personnes, c'est quand même incroyable, avec je pense, une qualité des gens qu'on réussit à embaucher pour plein de raisons, parce que maintenant on est plus connu, parce que on a aussi les moyens de payer ou de se payer, si je puis dire, des gens qu'on n'aurait pas pu embaucher avant, parce que on a une complexité et une diversité de sujets qui fait que y a des gens qui ont des expertises plus pointu, on va dire, qui nous rejoignent, enfin, pour plein de raisons. Donc ça, c'est franchement, ça, c'est hyper excitant au quotidien. L'expansion européenne, et peut-être un jour au-delà des frontières de l'Europe, c'est aussi très excitant de se dire on voit que notre service il est utilisé en Allemagne, en Italie, en Espagne, avec des vrais clients, ça, je pense, c'est génial. On a commencé à faire il y a quelques mois des campagnes marketing à la radio, etc. Alors c'est un peu ça fait un peu tarte à la crème et un peu peut-être égo mal placé, mais c'est vrai que moi j'ai pas mal de gens que j'ai pas vu depuis très longtemps qui m'envoient des messages en me disant j'ai entendu une pub Conto à la radio, etc. Et donc non pas que on fasse ça pour ça, mais c'est vrai qu'on se dit c'est vrai qu'en fait et moi-même d'ailleurs je les entends les pubs et donc je me dis c'est vrai que là c'est quand on commence à atteindre un stade où on fait de la vraie pub sur des vrais canaux vraiment à grande échelle, etc. Donc ça c'est franchement excitant. On apprend tous les jours parce que par définition moi j'ai jamais dirigé une équipe ou une entreprise de 300 personnes, donc il y a un an ou deux on était 100 ou 150, donc c'était la première fois que je dirigeais une entreprise de 150, mais aujourd'hui c'est la première fois que je dirige une entreprise de 300 qui s'étend en Europe, qui ouvre des bureaux, etc. Les levées de fonds qui sont des épisodes, alors on a un article ou deux articles et puis on en parle pendant quelques jours très intensément, mais évidemment ça se prépare en amont, des discussions avec des investisseurs, etc. Ça c'est aussi des sujets franchement très intéressants. On a la chance d'être, comme on le dit, assez visible, donc on échange avec pas mal d'investisseurs du monde entier, très franchement très très bon, très très ouais, qui font ça toute la journée, donc c'est aussi intéressant d'avoir leur point de vue, ils ont une vue mondiale, etc. Donc ça c'est intéressant. Et puis last but not least, comme on dit, la satisfaction client dont je parlais tout à l'heure, moi j'ai souvent des gens que je connais pas qui m'envoient des messages sur LinkedIn notamment de félicitations. Il y en a aussi qui se plaignent, hein, évidemment, mais et ça c'est génial de se dire en fait j'ai créé avec Steve Conto parce qu'on avait vécu cette frustration de service pas bien fait, le support client qui est lent, les prix incompréhensibles, etc., etc. Et en fait, 3 ans ou 4 ans plus tard, il y a des clients que je connais pas qui, franchement, sont pas payés pour ça, qui m'envoient un message en me disant « Merci, vous nous sauvez la vie, c'est vraiment génial, le service est canon. » Les prix sont transparents, le support client est génial, même le samedi, même le dimanche. Voilà, ça, c'est quand même hyper, hyper gratifiant.
Super. Et dernière question, pour de vrai cette fois. Est-ce que tu as des ressources que tu recommanderais à nos auditeurs je sais pas, des newsletters, des podcasts, tout ce que tu veux.
Franchement, j'ai malheureusement pas une réponse très précise sur des ressources online ou ce genre de choses, parce que je glane un peu les informations à droite à gauche et j'ai pas une bible que je lis ou que je consulte religieusement. En revanche, je lis pas mal les journaux, notamment les Échos. Et du coup, je trouve que c'est bien d'avoir à la fois bien connaître les actualités, donc la news du jour, etc. Et donc typiquement, les quotidiens pour ça, c'est bien. Mais aussi d'avoir un peu plus du temps pour regarder des articles ou des tendances de fond. Parce que donc que ce soit, sur le télétravail, sur... c'est très dans l'actualité, mais télétravail, sur... comment les salariés veulent se former, comment accompagner pour le changement, comment la culture d'entreprise, comment, etc. Et ce que je veux dire, c'est que le gros défi du fondateur ou du cofondateur d'une boîte qui scale vraiment, c'est à la fois d'avoir un pied dans l'opérationnel ou en tout cas dans ce qui se passe au quotidien, les améliorations à court terme, la prochaine fonctionnalité qu'on veut développer pendant 3 mois, etc., etc. Mais aussi de savoir regarder bien plus loin, à, on va dire, 3 ans, 5 ans, parce qu'en fait, savoir où on veut aller dans 3 ans ou 5 ans, c'est ça qui va avoir une influence sur des décisions un peu plus lourdes, un peu plus stratégiques qu'on prend aujourd'hui. Donc typiquement, quand je disais ouvrir des bureaux locaux, ça veut dire que où est-ce qu'on se projette dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on aura 3 ou 4 ou 5 bureaux, on va dire, de taille identique? Ou est-ce qu'on va rester dans un modèle où on aura un siège important à Paris et des petits bureaux ailleurs? Est-ce qu'en fait, on va se dire que ça va être très distribué parce que les gens vont être en remote? Et ces choses-là, ça se prévoit et ça se prépare quand même pas mal en avance, quoi. Pas de bible online, mais plutôt de savoir bien regarder des choses très court terme pour avoir des bonnes idées peut-être à tester, à itérer rapidement, et aussi des choses plus long terme pour se projeter à 3 ans, 5 ans, et du coup se dire si on veut être là dans 3 ou 5 ans avec la boîte, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour y arriver, quoi.
Très clair. Merci Alex.
Je t'en prie, merci Naël.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de FinTech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à 2 personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec FinTech.